Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever.
Et des rêves à soulever, ils sont, je pense, près de 3 à 4 000 athlètes réunis à Paris pour les Jeux Olympiques, qui ont tous des rêves et des trophées à vouloir soulever. On va revenir, bien sûr, en long, en large et en travers sur ces Jeux Olympiques qui viennent de commencer. C'était vendredi dernier, Sam, et on avait envie de parler, justement, ensemble, dans un premier temps, de cette cérémonie d'ouverture. Bonjour Samuel Cujas.
Bonjour Didier, bonjour à toutes et à tous. Oui, on avait envie de parler de cette cérémonie d'ouverture qui était fort différente de tout ce à quoi on a pu avoir l'habitude depuis qu'on suit les Jeux Olympiques, pour la bonne, simple et bonne raison qu'elle ne s'est pas tenue dans un stade olympique comme tout le monde a pu le constater, ce qui est d'habitude la tradition. Alors, elle a été sans doute un peu clivante par certains aspects pour certains, mais en tout cas, je pense, et c'est ce qui semble ressortir de la presse internationale et d'un petit peu des observations de tout le monde, c'était une cérémonie spectaculaire, très originale, avec un final assez grandiose et qui restera sans doute dans les mémoires pendant assez longtemps. On en discutait, vous et moi.
Absolument.
Cette cérémonie, elle était grandiose. C'est vrai qu'il manquait sans doute pour nous qui sommes des grands amateurs de sport, de cette petite étincelle qui surgit lorsque les athlètes pénètrent dans un stade olympique pour une présentation des athlètes au début des Jeux Olympiques. Voilà, il manquait ce côté-là, à côté de ça, c'est vrai que la cérémonie en elle-même, même si elle qui laissait la part belle à Paris et au spectacle plus que aux athlètes qu'on voyait passer par intermittence, elle était vraiment spectaculaire et c'est vrai que le final avec Céline Dion qui a surgi sur cette tour Eiffel, c'était assez spectaculaire.
Clairement.
Un bel hommage des organisateurs
mais clairement.
À Céline Dion et à pas mal d'athlètes, les athlètes dont on attendait le nom de celui ou de celle qui allait allumer la vasque olympique. Et après un très long suspense, ça a été donc Marie-Josée Pérec, la grande championne, là sans doute la plus grande championne de l'athlétisme français, accompagnée de Teddy Riner, lui également. Le plus grand champion de judo français, l'athlétisme, le judo, ce sont deux sports olympiques très populaires et dans lesquels la France, alors surtout en judo, la France fonctionne bien, en athlétisme c'est moins souvent le cas, mais donc voilà, ce sont ces deux champions qui ont été choisis pour allumer la vasque, une vasque olympique qui là aussi change de tout ce qu'on voit habituellement, et moi qui suis actuellement à Paris, je peux vous dire que je suis passé, je l'ai vu, la vasque olympique flotte dans les airs de nuit. C'est assez impressionnant, c'est étonnant.
Bah justement, Sam, on en parlait, c'était l'objet de notre question du jour aujourd'hui, et nos auditeurs étaient très divisés, notamment entre Instagram où ils avaient été subjugués, bon, c'est les plus jeunes, et puis sur X, les gens étaient un petit peu plus dubitatifs, et je suppose que vous et moi, en tout cas, je faisais partie des près de 2 milliards de téléspectateurs qui ont assisté derrière leur poste, comme on dit, à cette cérémonie, et... C'est vrai, effectivement, c'était juste magnifique, le final était somptueux, mais le puriste que je suis, enfin le puriste, entendons-nous, il m'a manqué, et vous l'évoquiez justement, je trouve que l'olympisme c'est un stade, je déplore personnellement, malgré que ce soit majestueux et splendide, cette vasque, mais c'est dommage que cette flamme olympique ne brille pas au milieu, ou en tout cas dans le stade, c'est la première fois, à ma connaissance, depuis que je regarde les Jeux Olympiques, la flamme ne se trouve pas dans un stade, je pense que même pour des athlètes, ça aurait été, et vous l'évoquiez aussi, très agréable de se retrouver tous ensemble avec un public tout autour. Alors c'est vrai que 300 000 visiteurs, on n'aurait pas pu les faire rentrer dans le stade de France à Saint-Denis. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre. Mais c'est dommage que ça ne se soit pas fini. Le stade Saint-Denis, finalement, on ne l'a quasiment pas vu, si ce n'est au début du reportage, si ma mémoire est bonne. Et puis pour le reste, et puis tout va se passer là, en tout cas en ce qui concerne l'athlétisme, qui est quand même à la base, je dirais, c'est la base de l'olympisme. C'était les athlètes dans un stade. Et et mais c'est vrai que personne n'oubliera cette cérémonie d'ouverture, tant la ville de Paris est déjà magnifique. C'est pas à vous que je dois le dire, bien sûr, qui êtes parisien, mais c'est vrai que c'était majestueux, c'était fabuleux. Et
ça aurait peut-être pu être une cérémonie de clôture, peut-être, et qu'on ait une cérémonie d'ouverture avec dans le stade. Effectivement, il y a ce côté centralisateur du stade olympique, et c'est un petit peu là où on c'est l'âme des Jeux Olympiques et la maison des Jeux Olympiques pendant les 2 semaines de la compétition. C'est vrai que pour l'instant, alors il y a plein de sites dans Paris qui accueillent des épreuves, mais c'est vrai que ne pas avoir eu l'entrée dans le stade des équipes qui se mélangent ensuite à la fin, une fois que tout le monde est entré, ça manquait un peu. Mais voilà, c'est un beau spectacle.
Tout à fait. Et puis il y a autre chose qui a fait polémique. Il y a autre chose qui a fait. Alors vous parlez d'originalité. Pour le coup, je voulais y venir aussi. Il y a des originalités qui ont fait vraiment polémique, notamment avec des tableaux, comme on dira. Alors il y en a qui ont dit la scène, et puis justement, je pense que le directeur artistique s'en est défendu hier, etc. Voilà. Ça n'avait rien à voir avec la scène mettant en scène justement Jésus-Christ, etc. C'est vrai que ça aurait pu choquer. Il y avait les LGBT, etc., qui ont eu une page très importante. Non pas qu'il faille les évincer, loin de là, mais c'était pour le moins assez iconoclaste, je trouvais. Mais bon, ça, c'est pas très très grave. Pour le reste, on en parlait, vous et moi, ça aurait pu être aussi l'objet on aurait pu faire exactement la même chose pour le bicentenaire, par exemple, de la France.
Oui, c'est ça. Il y avait finalement assez peu de place laissée à la représentation, aux images de l'olympisme, du sport olympique, mais plus une célébration de Paris, ce qui était très joli. Mais voilà, c'est vrai que c'était bon. On savait, je vais apprendre ça. Français aiment bien être un peu originaux et un peu à contre-courant.
Donc
il fallait s'attendre à quelque chose comme ça. Les polémiques et le côté clivant, je pense qu'on finira, on va l'oublier assez rapidement.
Bien évidemment.
Et puis on gardera en mémoire. Surtout, moi, j'ai trouvé ce final formidable à partir du moment où Zidane a eu la flamme qu'il l'a donnée à Rafael Nadal, ce qui était une belle surprise de le voir là, lui qui a gagné 14 fois Roland Garros, le maître des lieux un peu de Paris, et ensuite laisser cette flamme partir sur ce bateau, et ensuite les derniers relais avec les plus grands sportifs olympiques français pour finalement allumer cette vasque et finir avec Céline Dion qui chantait en direct, semble-t-il. Ouais. Il y a là aussi une petite...
Ce qui n'a pas été le cas d'Aya Nakamura, paraît-il, d'après les infos dont on dispose. Par contre, un truc qui est passé un petit peu sous les radars, en tout cas, on a parlé beaucoup de Céline Dion, vous le disiez, mais moi, il y a une image qui m'a touché extrêmement fort, c'était celle de ce champion olympique de 100 ans qui a transmis, ouais, justement, la flamme à Teddy Riner et à Marie-Jo Pérec.
C'est ça.
Et j'ai trouvé ça extraordinaire.
Dans le Coste, oui. Oui, c'est vrai qu'il c'était bien d'avoir pu fait participer un champion de cet âge-là qui permet aussi de participer à la fête et de mêler toutes les générations, un maximum de gens.
Et notamment, et le symbole est double, parce qu'il est né l'année, la dernière fois que les Jeux Olympiques avaient lieu à Paris, en fait.
C'était le centenaire de ce monsieur et le centenaire des Jeux Olympiques de Paris.
Bien voilà, alors ça c'était pour la cérémonie. Maintenant Sam, on va venir à, comme on dit chez nous, plus tachlès, on va parler des résultats et du programme du jour. Alors on a évoqué dans le journal Lucie Gilson, on parlait des menaces sur la délégation israélienne et aussi de la sécurité qui règne autour de cette même délégation. On sait que les Français et les services de renseignement ont mis les petits plats dans les grands, pour le coup. Qu'en est-il exactement?
Oui, effectivement, on a pu constater... Alors, les Israéliens ont démarré les Jeux Olympiques un peu plus tôt que les autres, enfin pas parce qu'ils sont israéliens, mais parce qu'ils participent à des épreuves de sport collectif, et c'est la tradition pour pouvoir caser tout le programme, notamment pour les épreuves de football. On démarre un petit peu avant, donc les Israéliens, comme toutes les équipes qui participent au tournoi de football, ont démarré, et on a pu effectivement s'apercevoir que dans le stade, les deux premiers matchs que les Israéliens ont disputés étaient au Parc des Princes. Il y avait une sécurité assez impressionnante, et plus de 1000 agents lors du match face au Mali, avec beaucoup de brigades spécialisées qui étaient vraiment là pour assurer la sécurité. Le ministre de l'Intérieur français a assisté au premier match des Israéliens également. Donc voilà, tout ce qui est au niveau sécuritaire, on espère sûr que tout va bien se passer. Au niveau du terrain, on est un petit peu déçu pour le moment. Je vais parler du football par les Israéliens qui, après un match nul heureux face aux Maliens, ont laissé filer un point qui va peut-être leur manquer, leur être très précieux lors de leur deuxième match face au Paraguay. Ils ont perdu 2-4. Il y avait 2-0, 2-2 pardon, à la 90e minute et ils ont encaissé 2 buts dans les arrêts de jeu. Alors c'était leur spécialité dans les tournois de jeunes qu'ils ont récemment disputés ou dans lesquels ils ont été fort brillants d'ailleurs, que ce soit la Coupe du Monde des moins de 20 ans, les Euros de moins de 21, les Israéliens marquaient toujours dans les arrêts de jeu. Là, ça a été à leur détriment, c'est leurs adversaires qui ont marqué. Mais la qualification n'est pas perdue, il va falloir qu'ils gagnent contre le Japon lors de leur dernier match, ce qui n'est pas impossible parce que le Japon est déjà qualifié. Et donc le Japon va peut-être faire tourner un petit peu son équipe et il faudra que le Paraguay ne batte pas le Mali. Donc voilà, les Israéliens peuvent encore espérer. Comme je vous l'ai dit, c'est souvent dans les tout derniers moments qu'ils ont réussi avec cette génération de jeunes joueurs à se qualifier. Alors peut-être que là, le dos au mur face aux Japonais, ce sera l'occasion de se transcender. Le match aura lieu à Nantes. Et plus au Parc des Princes.
Bien. Et puis alors, il faut quand même le souligner, il y a une médaille israélienne qui a été attribuée, une médaille de bronze, si je ne m'abuse, avant même que la cérémonie d'ouverture ne se produise. C'était en taekwondo, si je ne me trompe pas. Enfin, si j'ai été bien informé.
En taekwondo, exactement. Et alors, on va en parler juste après, si vous voulez. Parce que je voulais.
Oui, bien sûr, dites-nous. C'est votre chronique, mon cher Samuel.
Eh oui, c'est ça. Je voulais vous parler de d'abord le sport de combat, mais une info, pardon, qui nous est tombée hier et dont Lucie vous a un peu parlé. C'était aujourd'hui à 10h10, si vous vouliez assister au combat de l'Israélien Tohar Boudboul. Eh bien, vous ne pourrez pas, puisque son adversaire, c'est un Algérien, Messaoud Redouane Driss, a abandonné, ou plutôt a déclaré forfait, parce que il a dépassé le poids. Vous doutez bien que ça n'est pas vraiment une raison, la raison, c'est la raison officielle, mais que c'est sans doute certainement pas la bonne raison. Évidemment, l'Algérie ne reconnaissant pas Israël, les athlètes algériens, et comme c'est bien souvent le cas avec les pays qui ne reconnaissent pas Israël, il a été prié de ne pas disputer son combat. Vous vous souvenez, il y a eu Saïd Moulay, le judoka iranien qui avait connu la même mésaventure face à Sagi Mouki, le grand judoka israélien. Il avait été contraint d'abandonner, il avait même fui son pays ensuite parce qu'il était vraiment pas d'accord avec ça. Et donc voilà, le Tohar Boudboul va passer en huitième de finale. Il devait concourir aujourd'hui dans les moins de 73 kilos. Tant pis pour le spectacle, tant mieux pour lui, il avancera d'un tour plus facilement. Mais bon, voilà.
Et sans se fatiguer en plus, pour le coup.
Sans se fatiguer, voilà. C'est un petit peu ce qu'on pouvait craindre face pour les les Israéliens ou les adversaires des Israéliens qui voudront absolument pas.
Et il paraît que pendant les Jeux Olympiques, normalement, la politique est absente. Eh bien, pas vraiment, vraiment. Mais ça, comme vous le disiez de manière très pertinente, on s'en serait douté. Bien, on est pris par le temps, mon cher Samuel. Donc, je l'évoquais, une médaille israélienne en taekwondo. Donc cocorico pour nos amis israéliens. Et puis, il faut quand même, on est quand même Radio Judaïque à Bruxelles, on est en Belgique, et la Belgique a fait très fort. Le premier jour, même pas 12 heures après, ou un petit peu plus de 12 heures après la cérémonie d'ouverture, eh bien, ça a démarré, pour citer un confrère de la presse écrite sur les chapeaux de roue, puisque dans le contre-la-montre individuel en cyclisme, la médaille d'or est revenue à Remco Evenepoel et la médaille de bronze, et on a longtemps cru à un doublé entre Remco Evenepoel et Wout van Aert en or et en argent, eh bien finalement c'est le grand favori qui s'est immiscé entre les deux Belges, c'est-à-dire Ganna, Filippo Ganna si je ne m'abuse, et tout cela pour je pense une dizaine de secondes, mais il a battu notre ami Wout van Aert de 2 secondes. Il faut quand même préciser que à la fois Remco Evenepoel et Wout van Aert sont quand même des survivants, puisque d'une certaine façon ils ont chuté très lourdement il y a à peine 3-4 mois de cela. Ils ont dû être opérés tous les deux de choses quand même assez importantes, notamment la clavicule, etc. pour l'un des deux. Et donc pour, on sait que pour revenir au plus haut niveau, ça prend énormément de temps. Ils ont mis moins de temps qu'il ne faut pour le dire, puisqu'ils décrochent à la fois l'or et le bronze. Bravo à eux, et le cyclisme belge a encore de belles heures devant lui, notamment samedi prochain, puisqu'on les retrouvera tous les deux sur l'épreuve sur route en ligne qui aura lieu samedi, si je ne m'abuse.
Et tout à fait, puisque vous parlez cyclisme à 14h10 aujourd'hui en mountain bike, cross country, l'épreuve de cross country masculin à laquelle va prendre part Tomer Zaltzman, donc un coureur israélien. C'est cool. Un coureur assez technique pour ceux qui ont suivi hier. Il y avait l'épreuve féminine qui a été remportée par la Française Pauline Ferrand-Prévot, et ça va être sur le même parcours. Et donc elle disait elle-même que c'était un parcours qui ressemblait assez peu au parcours de Coupe du Monde habituel, donc on peut avoir des surprises, et peut-être, pourquoi pas, on espère, Tomer Zaltzman. Misha Silbermann à 19h30 jouera son deuxième match du tournoi de badminton face au champion olympique en titre, le Victor Axelsen. Dans les autres, Lucie vous a également parlé du surf qui aura lieu donc avec une Israélienne ce soir. Ça, ce sera un peu plus tard, c'est à 23h50, c'est Anat Lelior qui va être opposé à l'Australienne Tyler Wright. Pour ceux qui se poseraient la question, les épreuves de surf n'ont pas lieu, bien sûr, à Paris, mais à Tahiti. Ils ont profité du spot très intéressant de Teuapo. Ma prononciation n'est peut-être pas la bonne.
Non, voilà, pas vraiment, je pense, mais je ne serais pas capable de faire mieux, je vous le dis. Hein.
Bon, alors ça va.
Bien, Samuel, on est...
Puisqu'on est pressé par le temps, je vais vous le jouer. Voilà, le dernier, ça va être... C'est peut-être la dernière fois qu'on aura l'occasion de le voir.
Absolument.
Dans notre vie. Nadal, Djokovic vont s'affronter au deuxième tour de, j'allais dire Roland-Garros, non, c'est dans le stade de Roland-Garros, mais donc le deuxième tour, ça va être en début d'après-midi, et donc les deux des plus grands champions de l'histoire du tennis s'affrontent au deuxième tour. Ça va être sympa, le roi de la terre battue contre le plus grand champion des 10 dernières années.
Bah oui, à mon avis, peut-être que dans 4 ans, eh bien, nous aurons notre ami Novak Djokovic qui allumera la flamme olympique, sait-on jamais. Bien, merci beaucoup Samuel, c'était un peu long aujourd'hui, mais il y a quand même 4 jours qui ont passé, et donc on va se retrouver toute la semaine pour faire plus court. Je rassure nos auditeurs qui ne sont pas très amateurs de Jeux Olympiques, ils sont rares notamment, hein, mais quand même, et on se retrouvera tous les jours pour faire un point sur les résultats et sur le programme du jour. Merci à vous, on se retrouve demain. Ah, alors.
Céline Dion tous les jours.
Comment dites-vous?
J'ai dit, on chantera Céline Dion tous les jours.
Ah ouais, enfin ça je vous laisse faire. Non, attendez, on a déjà eu assez de pluie comme ça. C'est gentil. Merci beaucoup. À demain, Samuel.
À demain.